Beaucoup de choses dans les prochaines minutes. On va commencer par retourner dans le trafic parce qu'on a des signalements de ralentissement majeurs qui nous sont transmis via le 418-971-1021.
Oui, puis merci pour vos yeux sur la route. On se fie pas mal sur vous. Il y a Sylvain qui nous dit qu'il ne sait pas exactement ce qui se passe sur Robert Bourassa, mais des deux côtés, il y a au moins 6 voitures de police qui roulent assez rapidement. Merci. Si jamais vous voyez exactement ce qu'il y a, 418-971-1021, mais effectivement que Robert Bourassa, direction nord, surtout entre Charest et la capitale, c'est très, très difficile. Capitale, direction ouest, à la hauteur de Robert Bourassa, de bons ralentissements. Si vous êtes sur Henri IV Nord, à peu près à la hauteur de la capitale, il y a un ralentissement inhabituel. Dans le coin de Val-Bélair aussi, ou l'avenue industrielle, et l'entrée du pont Pierre-Laporte qui est assez congestionnée en ce moment. Quoi que ce soit d'autre, 88-971-102 par texto.
Dossier de la guerre des motards, Véro, on le sait, depuis quelques semaines, les policiers ont commencé à faire le ménage.
La guerre des motards, ça me fait rire. La guerre pour le contrôle du marché de la drogue à Québec, qui implique les motards et un gang de rue qui est en train de se faire décimer par
la
police.
La guerre des motards, comme dans le temps. Là.
Mais là, c'était effectivement autour des motards aujourd'hui. C'était le retour de balancier de l'autre côté. Il y avait une frappe policière importante qui a eu lieu dans la capitale nationale, puis même dans une partie de la Mauricie. Donc, SQ, police de Québec, police de Lévis qui ont été impliqués là-dedans. 70 policiers, en fait, qui étaient sur le terrain. Fait qu'on a arrêté 16 arrestations qui ont eu lieu de membres des Hells Angels, de leurs sympathisants dans la région de Québec. 14 hommes, 2 femmes âgées entre 22 et 62 ans. Puis c'est essentiellement pour tout ce qui est lié au trafic de stupéfiants. Donc, des accusations d'infraction au profit d'une organisation criminelle, de complot, trafic de stupéfiants, possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic, possession de cannabis en vue d'en faire le trafic, somme d'argent, stéroïdes, etc. etc. Puis c'est pour des affaires qui dataient quand même, c'est une enquête qui s'était déroulée entre 2021 puis 2022. Entre autres, parmi ceux qui ont été arrêtés, le fameux Mario Banane-Auger qu'on avait envoyé du côté du Portugal pour jaser avec Pic, puis que ça n'avait pas marché, là, fait partie des personnes qui ont été arrêtées aujourd'hui et qui ont comparu aujourd'hui.
Au-delà de la parade des comparutions, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières heures au Palais de justice? On se tourne vers Judith Desmeules, journaliste judiciaire au Soleil. Salut Judith.
Allô.
Salut Judith.
Denis n'avait pas monté ton micro.
Allô?
Ouais, je t'oblige.
Elle comprenait comme pas, mais allô?
T'étais coupé du monde, t'étais isolé. Ouais, c'est ça. Fait qu'on est content de t'entendre parmi nous. Judith, une histoire de meurtre, mon Dieu, de sang-froid, on peut le dire comme ça, c'est le moins qu'on puisse dire. L'histoire de Kevin Prévost-Bouchard.
Oui, ça, c'est l'histoire du meurtre qui est arrivé en août 2022 à Stoneham.
Oui.
Je sais pas si vous vous souvenez, là, c'était un ressortissant marocain, voyons, qui était décédé dans son auto. On savait qu'il
un ado qui l'avait trouvé. Les voisins avaient entendu des coups de feu. Puis, sur le coup, on disait, c'est un gars qui étudie au professionnel à Montréal, un gars sans histoire, sa famille ne comprenait pas.
Comme un gentil jeune homme là, qui commençait ses études, qui est arrivé au Canada à 18 ans, très, très jeune pour arriver tout seul au Canada. Puis, qu'il était sans histoire là, jusqu'à maintenant, évidemment. Là. On savait que c'était lié au trafic de stupéfiants. La SQ l'avait dit. Puis, on savait aussi qu'il était mort par balle, étant donné tout ce qu'on avait entendu. Mm-hmm. Mais on savait pas que c'était si gratuit que ça, je dirais. On a parlé de lui en disant que c'était un meurtre qui témoignait d'un mépris de la vie humaine motivé par l'appât du gain. Donc, c'est vraiment pour un kilo de drogue.
Le gars qui était devant la justice aujourd'hui, en fait, les deux qui ont été arrêtés dans cette histoire-là, c'est deux individus qui ont été accusés de meurtre prémédité.
Ouais,
aujourd'hui, c'est un plaidoyer de culpabilité qui a été fait, donc on n'a pas eu de procès.
Non, on a réglé tout ça en reconnaissant la culpabilité. Là, puis l'accusation, finalement, c'est deuxième degré, donc sans préméditation. Ça a changé avec le plaidoyer.
Est-ce que je comprends qu'il voulait de la coke, il n'y avait pas d'argent, il a tué le livreur? Bing, bang, boing.
Ben, un peu. On ne sait pas. Les détails ne vont pas jusqu'à pourquoi elle voulait à ce point-là ce kilo de drogue-là, mais des témoins ont raconté ensuite aux policiers qu'il s'était vanté là, d'avoir passé son livreur puis d'avoir eu de la coke gratis.
Par la suite.
Wow. Oui, exactement. Là, c'est vraiment quelqu'un qui, j'ai envie de dire, qui voulait se faire arrêter. Là. Il n'y a pas vraiment...
Il n'y a pas eu de discrétion?
Ben, un, il amène quelqu'un avec lui qui est son co-accusé dans cette histoire-là, Éric Guénette, qui, lui... ne semblait pas savoir que c'était ça le plan jusqu'à temps que son ami embarque dans le char. Il n'a pas eu le temps vraiment d'analyser la situation. Ensuite, il se vante d'avoir passé son livreur à un autre puis d'avoir de la coke gratis à donner. Ensuite, arrêté pour un autre dossier de violence qui avait braqué une arme sur quelqu'un. Se vante de son meurtre à un co-détenu en prison. Quand c'est passé aux nouvelles, là, tous les détenus écoutaient ça, puis lui, il a dit « Hey, c'est moi ça, c'est moi qui l'ai passé. » Fait que tu sais, t'avais plusieurs ajouts. T'sais, la preuve était quand même bonne là, du côté de la poursuite. Fait que finalement, il a décidé de plaider coupable. Puis on réalise que tu sais, le jeune qui est mort, Ashraf Timoumi, il n'avait pas montré de violence. C'était sa première livraison à Québec. Oui, je pense que c'est un petit gars qui aimait l'argent, qui voulait de l'argent, mm-hmm. qui s'est fait embarquer dans des choses qui peut-être qu'il ne connaissait pas l'ampleur. Je pense qu'il était naïf. C'est comme ça qu'on l'a décrit, mais ce n'était pas un criminel là, endurci. Là.
Lui, tu nous as dit qu'il est arrivé tout seul au Québec. Ouais. Sa famille, est-ce qu'elle a fait le voyage pour le procès? Est-ce qu'ils ont eu à être présents ou à témoigner?
Ils étaient présents à toutes les étapes par visioconférence en direct du Maroc.
Okay.
Ils ne sont pas venus par manque d'argent, puis c'était compliqué les voyages et tout. En plus, c'était pendant la ish pandémie. Là.
Ouais.
Donc, puis c'est sa grande sœur qui a fait un témoignage très touchant là, par visioconférence aujourd'hui en disant à quel point ça avait démoli leur famille, puis de se sentir loin comme ça. Tu sais, au Maroc, ils ont différentes. C'est une autre culture. Là. Je ne sais pas ce qu'ils font avec leurs personnes décédées, mais pour eux, de recevoir un cercueil scellé sans voir le corps et sans être sur les lieux du décès, c'était très difficile pour eux de faire le deuil par la suite. Donc, elle a tout expliqué ça. Puis, en plus de savoir qu'il a été tué complètement gratuitement de 6 balles, c'est énorme. On s'entend qu'on peut dire qu'il s'est acharné.
Oh mon Dieu, je pensais que c'était acharné, une, là.
Puis à travers la fenêtre, il n'y a même pas le temps de dire bonjour.
Il a réglé son cas, il est parti avec la cocaïne.
Après ça, il est allé refaire d'autres crimes. Il est en prison quand on l'a arrêté. T'sais, c'est vraiment un genre de criminel qu'il faut tenir loin de la société.
As-tu montré des genres de remords encore?
Oh mon Dieu! J'ai failli oublier de vous parler de ça.
Ben voyons.
Non, mais c'est parce qu'on l'a passé vite aujourd'hui, mais à chaque fois qu'on fait un plaidoyer de culpabilité, on offre à l'accusé de s'excuser.
T'as-tu quelque chose à dire?
Oui, ouais, on lui dit de se prononcer là-dessus. Puis souvent, c'est le moment où tu t'excuses à la famille, à tout le moins. Et là, il s'est levé. Il s'est levé debout, Kevin Prévost-Bouchard, toujours par visioconférence, puisqu'il était déjà détenu à Robertval. Il y avait une petite feuille entre les mains, déplie sa feuille, pas capable de lire à moitié ce qui est écrit, se trompe dans le nom de la victime.
Oh là là!
Et il dit, je m'excuse, à peu près là, je m'excuse pour toute la tristesse que j'ai causée en raison de cet incident. Cet incident.
Un incident. Tirer 6 balles dans le corps de quelqu'un en le regardant même pas à travers une fenêtre de chambre.
Un incident. Puis là, après, il a lu, puis il a dit, fait que c'est ça. Ça a été très bref et je pense que je peux me prononcer en disant que ça semblait pas très...
Très sincère!
Ouais, autant du côté de la défense que de la couronne, on s'est entendu puisque c'est perpétuité, mais là, c'est sans possibilité de libération conditionnelle avant 17 ans, ce qui est quand même assez élevé.
Oui,
est-ce que ceci explique cela?
Oui, c'est dans la plus haute fourchette. Puis je pense que la couronne, tu sais, avait demandé mort premier au départ, donc voulait se rapprocher le plus possible du 25. Et avec 17, ça convenait à tout le monde. Puis oui, là, ça, c'est parce que le crime était... Tu sais, il y a des meurtres plus sanguinaires que d'autres, mettons. Là. Puis ça, là, c'est...
Il reste encore le procès de son complice dans cette histoire-là.
Oui, c'est ça. Rick Guénette, là... Il fallait régler Kevin Prévost-Bouchard, qui semble être l'acteur numéro un de ce meurtre-là. Puis ensuite, j'imagine qu'il y a des discussions qu'il va avoir avec le cas aussi d'Éric Guénette. Donc, pour lui, c'est à suivre dans les prochaines semaines, parce que lui, s'il y avait eu procès, il avait accepté de témoigner pour la couronne.
Okay.
Judith, tu avais le goût de nous parler des victimes. Puis dans les dernières semaines, c'est arrivé une couple de fois que les victimes ont retenu l'attention au palais de justice. Puis à chaque fois, on a un peu le même réflexe, c'est de saluer leur courage.
Mm-hmm.
Puis j'ai pas vu beaucoup de procès dans ma vie, mais le procès que j'ai suivi à l'époque, c'était le procès de la prostitution juvénile.
Mm-hmm.
Puis j'avais exactement la même réflexion de voir ces jeunes filles-là, avec aplomb, essayer justement de confronter souvent des avocats qui sont pas très gentils, pas très polis avec eux autres. Puis tu te dis, tabarnouche, c'est dur de se mettre dans la peau d'une autre personne dans des circonstances comme celle-là, mais tu te demandes quand même la question, moi, je le ferais-tu?
Non,
est-ce que je passerais par-dessus tout le processus judiciaire? Est-ce que je me plongerais là-dedans, le stress du palais de justice et ainsi de suite? Puis il y a quand même des choses à jaser là-dessus, d'autant plus que il y a bien des victimes qui font des témoignages avec aplomb, mais des fois, il arrive des affaires aussi.
Mm-hmm. Oui. Oui, puis je vous ai déjà parlé là, de l'étape des observations sur la peine.
Mm-hmm.
C'est le moment où vraiment on laisse place à l'émotion du crime. Parce que quand on suit un procès ou les autres comparutions, on parle des faits.
Il y a encore de quoi prouver à ce moment-là.
Oui, puis c'est pas le temps de dire si t'es triste, si t'es fâché. C'est vraiment, on se concentre sur qu'est-ce qui est arrivé. Puis on oublie là, toutes les répercussions qui peut résulter du crime. Donc, les observations sur la peine, c'est le temps de dire comment tu te sens.
C'est quoi les conséquences?
Ah ouais, les conséquences. Est-ce que tu dors encore? Est-ce que, tu sais, c'est... Puis c'est souvent l'étape que moi, je trouve la plus dure, parce que c'est là que tu rentres vraiment dans l'intimité des gens, dans leur tête, puis tu vois à quel point ça peut faire mal.
Les conséquences.
Oui, exact. Mm-hmm. Puis dans le cas où on se parle, puis c'est souvent ça les plus durs, là, c'est un cas de leurre informatique et de contact sexuel, donc agression sexuelle sur une mineure. Donc c'était une jeune fille de 13 ans.
C'est cette semaine, ça?
Oui, cette semaine. C'est arrivé mardi. Puis, c'était les observations sur la peine. Puis, dans un cas de leurre informatique, c'est important de préciser que souvent, c'est des plaidoyers de culpabilité. Un, parce qu'on a des centaines de pages de conversations sur quelconque application qui fait que c'est dur à prouver le contraire, que tu n'as pas dit des choses déplacées à une enfant. Puis, dans le cas de contact sexuel sur des enfants, le plaidoyer de culpabilité a vraiment une importance pour décider la peine, parce que ça empêche les jeunes victimes, des personnes mineures qui peuvent avoir 12, même plus jeunes, de témoigner. Puis ça, c'est un facteur vraiment atténuant dans ta peine. Fait que tu le prends. Puis en plus, tu évites à la victime d'avoir à faire un douloureux exercice de témoignage, comme tu parlais tantôt. Puis là, il faut que tu parles à l'autre avocat, que lui, tu connais pas.
Ouais.
Puis ça, avec des enfants, tu réalises quand tu les vois arriver au palais que c'est le travail d'un procureur, là, d'un avocat, là, c'est pas juste de plaider, là, c'est d'accompagner ta victime. Puis cette étape-là est importante parce que cette fille, c'est juste, t'es le fort de cette personne-là en salle de cour.
La personne de confiance, la personne qui connaît la trail.
Puis t'as des gens avec toi qui viennent t'épauler, mais ces gens-là sont en arrière, tu les vois pas quand tu parles à la juge, c'est vraiment ton contact dans une pièce qui est grise, qui est plate à regarder, puis en plus t'as ton agresseur de l'autre côté qui est dans la boîte détenue. Fait qu'elle, ce qui est arrivé, c'est une jeune fille, elle a maintenant 15 ans, ça fait 2 ans que les faits se sont passés. Le gars, je peux pas le nommer en passant à cause d'une ordonnance pour protéger la victime. Puis elle s'avance, elle avait écrit une lettre. Puis moi, je l'ai vue avant de rentrer dans la salle d'audience. Elle allait super bien, elle discutait avec sa mère, des gens qui étaient là, avec la procureure.
Elle semblait en contrôle malgré toute la situation.
C'était du small talk, puis elle souriait, elle faisait des petites jokes. Honnêtement, tout semblait bien. Puis c'est au moment de s'avancer, au moment où elle a vu son agresseur, que là, elle s'est mise à respirer plus vite. Puis là, on ne comprenait pas, elle ne répondait plus. C'est comme si elle n'était plus là. Puis elle a fait une crise de panique, là. Puis assez bruyante, je dirais. Là, elle a hurlé, elle a pleuré. Puis
elle s'est carrément désorganisée à la vue de son agresseur.
Puis tu sais, les constables n'interviennent pas auprès d'elle parce qu'elle n'est pas dangereuse. Puis je pense pas que c'est le temps de toucher qu'un homme touche.
Non, je comprends donc.
Donc là, c'est les gens qui étaient avec elle. Elle a sorti de l'extérieur. Puis il y a le décorum à respecter. Tu sais, la juge, c'est une juge, c'est une femme. Même si elle est sensible à ça, elle est assise sur son banc. Elle n'a pas de commentaires à faire. C'est un peu étrange parce que quand ça arrive, cette situation-là, tout le monde se jette sur toi pour voir si t'es correct. Puis ça se fait dans un lieu public, mais au palais de justice, il faut garder un calme. Mm-hmm. Mais là, comment qu'on fait pour garder le calme quand c'est une victime qui se
désorganise? C'est pas un accusé qui fait un show de boucan.
Exact. Lui,
c'est une victime.
On n'hésite pas, on l'arrête, on rentre dans le mur. Là, mais elle, c'est vraiment
délicat. C'est hors de son contrôle.
Puis là, elle crie, donc elle dérange tout l'étage. En plus, ça se passait au 215, c'était une salle à volume. Il y avait d'autres personnes aux alentours, d'autres détenus qui attendaient, peut-être d'autres victimes à côté. Donc, c'était vraiment... Puis là, c'est là que tu te rends compte que cette petite fille-là, elle a très mal, qu'elle souffre de ce qu'elle a vécu et que même si elle était prête puis elle avait toutes les raisons du monde de combattre sa peur puis de témoigner, une crise de panique, ça c'est pas quand ça...
Sais-tu, Judith, il faut que ça arrive pour qu'on saisisse à quel point c'est surprenant que ça arrive pas plus souvent.
Bien, tellement.
Dans des circonstances comme ça.
Puis j'ai jasé avec la procureure après, puis elle m'avait dit qu'elle se doutait pas là, que ça allait arriver, qu'elle semblait correcte.
Parce que souvent, ils vont préparer témoignage auparavant, ils vont préparer la lecture. Puis
ce que je trouve important de dire, là, c'est que les observations sur la peine, on a inventé un processus que la victime, on veut pas la forcer à venir. On lui offre l'opportunité d'écrire une lettre. Puis c'est la procureure qui va la lire à la juge. Puis cette lettre-là, elle a le même poids si elle est lue à la par la procureure que si la victime vient elle-même la lire. Elle n'est pas obligée de venir. Souvent, c'est pour son processus de guérison personnelle que tu vas à la cour, que tu viens affronter ton agresseur, que tu viens devant la juge, de venir dire toi-même qu'est-ce que tu as vécu. Mais ça, ça amène aucun plus pour le dossier. Mm-hmm. Donc, la procureure, elle... pas qu'elle s'en fout, mais elle, que ça soit la lettre ou la personne, mais la personne, c'est plus de travail parce que tu dois l'accompagner et tout, mais tu veux jamais lui enlever aussi...
le pouvoir que ça peut lui redonner dans une situation.
Cette étape-là pour elle, pour grandir de ça, puis essayer de survivre à travers ça. Puis, donc, c'est tellement... Cette avocate-là, je vais la nommer, là, Maître Geneviève Corriveau, elle était vraiment d'une douceur exemplaire.
C'est une enfant, en plus, là, qui est là, là qui est en panique.
Une enfant qui a perdu beaucoup de sa jeunesse, qui n'a pas grandi comme elle devrait grandir, tu sais. Puis après ça, là, on lui a laissé un moment, on a traité d'autres dossiers. Puis c'est drôle de traiter d'autres dossiers quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui...
Comment ça, combien de temps ça a duré avant, justement, là, qu'on réussisse à... Premièrement, ils ont dû évacuer la jeune fille.
Ils ont sorti de la salle, elle est allée dans un cubicule, elle a repris son contrôle.
Son avocate est allée la rejoindre, ses parents
la procureure,
peut-être?
Ses parents étaient avec elle en tout temps. La procureure a demandé si on pouvait suspendre le dossier. Là, je dis bien sûr. Mm-hmm. La procureure est sortie, elle est allée voir si la jeune fille voulait laisser faire, parce que moi, je ne te forcerai pas à y retourner.
Je vais la lire, moi, ta lettre.
Mais elle lui a dit, est-ce que tu veux le faire? Tu t'es préparé pour ça, tu t'es mindé pour ça, je ne veux pas te l'enlever, mais là, c'est maintenant. Puis la petite, il faut qu'elle se ressaisisse tout de suite parce qu'on ne donnera pas une autre date.
Elle n'est pas retournée.
Elle est retournée.
Ben, elle est retournée.
Elle a pris, là, c'est tout ce qui lui restait de force. Retournée à l'intérieur, crise de panique passée. Puis là, ce qu'on a fait, c'est que la procureure a demandé si elle pouvait... Parce que la procureure doit rester à sa place. Tu sais, c'est un décorum, tout le monde est à sa place.
C'est une mise en scène dans une certaine mesure, là, oui.
Puis là, elle a demandé si elle pouvait être au banc des témoins avec elle. Elle lui a demandé si elle pouvait lui tenir la main. La procureure, là, l'avocate, là, c'est pas sa job. Lui tenir la main, puis elle s'est mise, dans le fond, entre l'agresseur et sa victime, là, pour pas qu'il y ait de contact direct. Puis le constable, les constables aussi se sont mis devant pour faire une espèce de mur. Puis elle l'a lu. Puis après ça, elle lui a demandé aussi si elle peut laisser faire le vouvoiement, là, si elle peut l'appeler par son prénom, parce que ça aussi, c'est dans le décorum. Tu dis monsieur, madame, puis tu vous vois, même
si tu la
connais.
Mais là, on est redevenus des humains un petit peu. Là.
On s'éloigne, puis on le sait tous qu'on fait ça pour elle.
Comment a réagi l'agresseur quand elle a fait sa crise de panique?
Il était pas content. Je pense qu'il voulait s'en aller. Lui aussi a été obligé de sortir, là, parce qu'on a suspendu son dossier. Je sais pas comment le décrire, tu sais, c'est dur. Il était sous le choc, il était pas content d'être là. Je pense qu'il était... ça l'a pas...
Une couche de réalité, peut-être, dans sa vie?
Peut-être, mais tu sais, ça fait déjà un bon bout de temps qu'il est en dedans, là. Lui est détenu depuis qu'il est arrêté. Puis les parents de l'agresseur étaient aussi dans la salle, puis eux autres venaient témoigner pour dire à quel point leur fils était une bonne personne, qu'il devait avoir une peine moins lourde. Avec la victime qui se désorganise à côté, là, ça fait que ton témoignage...
Il perd un peu son essence.
Est-ce qu'à la fin d'une journée comme celle-là, la juge parle aux gens qui étaient présents, je ne sais pas, peut-être pour justement saluer le courage? Pis...
Ils saluent les victimes. Quand ils viennent, ils prennent le temps de leur dire de saluer le courage dont ils ont fait preuve, puis les félicitent, puis leur souhaitent bonne chance. C'est arrivé plus tôt là, dans un autre dossier d'agression sexuelle. La femme était venue témoigner, puis ça avait été dur, puis le juge lui a même dit j'en ai des années derrière la cravate, puis c'est une plus belle déclaration que j'ai lue. Là. Il donne des commentaires, surtout quand le gars est coupable, puis ils savent qu'elle a été agressée, là, hors de tout doute. Donc, ils disent des commentaires à la victime souvent.
Dans ce cas-là, est-ce que la sentence va tomber quand, dans le fond? Là,
mais là, étant donné que ça a retardé, on n'a pas fini. On a eu les témoignages des parents, de la mère, là, du détenu.
Ah oui, ils l'ont fait pareil?
Ben oui, parce qu'il faut avancer. Comme je dis, le temps, là...
Non, mais c'est parce que... Moi, je sais pas, je suis le parent d'un agresseur, je viens de voir ce qui se passe, ça se peut que je dise, hey, moi, finalement, je vais sauter un tour.
Puis en plus, la petite, la victime, la jeune fille, elle est restée dans la salle, écouter le témoignage, puis je la voyais, là, elle écoutait la maman parler, puis la maman disait à quel point elle fait du cheminement, puis qu'il y avait des remords, nanan, puis... Elle disait essentiellement un peu le contraire que le rapport sexologique disait. Là. Donc, son témoignage était un petit peu farfelu. Là. Donc, puis elle regardait, puis elle se disait, ah, pourquoi elle dit ça? Voyons donc. Puis elle avait le goût de participer, réagir. De réagir et tout. Mais fait que là, on va devoir faire une autre date au mois de mai là, pour continuer les représentations sur sentence parce que les avocats n'ont pas plaidé encore. Donc, il va avoir sa sentence un petit peu plus
tard. Ça doit être difficile, par exemple, pour un parent. T'sais, je ne sais pas de quoi je parle. Puis au final...
Ah, c'est sûr.
C'est un agresseur, il n'y a rien de positif. Mais c'est ton enfant. Tu disais, je me retirerais, mais en même temps, j'essaie d'imaginer. Puis toi, tu vois toujours le bon dans ton enfant.
T'sais, un témoignage de maman, puis la mère de la victime l'a dit en sortant, c'est un témoignage de maman. Mm-hmm. J'aurais dit peut-être la même chose. Mm-hmm. Ouais. Toi, tu vois juste le bon en ton fils. Oui, il a fait quelque chose d'épouvantable, mais toi, tu veux voir juste le chemin qu'il a fait depuis ça.
Je suis là pour lui, puis je suis là pour l'aider.
Mais ouais. Si on prenait compte de tous les témoignages de maman-papa qui viennent dire que leur fils ou leur fille sont extraordinaires même après un crime, ben là, on donnerait des sentences bonbons tout le temps. Là. Fait que le poids que ça a est très limité.
Hey Judith, merci d'avoir pris le temps de nous raconter cette histoire-là parce que souvent, puis peut-être parce que ça fait trop longtemps qu'on fait ce job-là, moi et Véro, mais tu sais, quand on parle de procès au palais de justice, souvent on donne le score, tu sais, comme une game de hockey à peu près. Là,
ah,
t'sais.
Mais nous aussi, il faut
mais,
se détacher.
Mais ce que tu viens de faire, ce que tu viens de nous raconter avec beaucoup d'humanité, je trouve que ça nous replace les priorités peut-être où ça devrait être, là, de nous rappeler que c'est des humains qui vont là puis qui vivent des choses. Puis bravo à tous ceux qui ont réussi à tasser le décorum un peu pour aider une enfant à aller au bout de son témoignage. Moi, le fait qu'elle soit...
Qu'elle est retournée.
Hein, j'en reviens pas encore.
Le palais de justice, c'est pas juste des accusés, c'est pas juste des criminels, c'est beaucoup, beaucoup de victimes et de personnes qui ont souffert de ces gens-là.
Judith Demel, journaliste judiciaire au Soleil, merci beaucoup.
Merci.
Il est 5h15. On va repartir fort. Ça va faire du bien.
Hey, je suis shaky.
Ouais, Pearl Jam avec la plus récente, c'est la pièce titre de l'album Dark Matter qui s'en vient dans quelques semaines à peine. Je vous rappelle de voter pour vos nouveautés, blvd.fm et sur l'application Boulevard. Merci d'être des nôtres.